ukiwa na bibi na watoto ndugu na rafiki.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 7 avril 2025 et c'est l'heure de vous informer sur Radio Mandeléo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information matinale sur Radio Mandeléo dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité dans cette édition du journal, après les drames qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les villages de Kabale et Katambi en territoire de Nyiragongo au nord Kivu, l'AFC M23 dans un communiqué officiel attribue cet acte d'assassinat aux ennemis de la paix qui profitent des mesures de la libre circulation et la suppression des barrières dans les zones libérées. Nous en parlons dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, interdiction formelle au Nganda et Bistro de fonctionner avant 16h, excepté le week-end, pour lutter contre l'insécurité dans la ville de Bukavu, selon une décision prise à l'issue du Conseil de sécurité et communiquée à la presse samedi par le gouverneur intérimaire. En plus, toute personne retrouvée en état d'ivresse pendant la journée sera sanctionnée. À suivre dans cette édition du journal mise en onde par Anissé Akonkwa. À toutes et à tous, nous disons bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Et d'abord, cette information, l'AFC M23 vient de procéder à la nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des trois communes de Bukavu dans un communiqué rendu public hier dimanche. Masumbu Kokuibe Alexis est nommé bourgmestre d'Ibanda avec comme adjoint Hakuzimana Jonathan. Biamungo Kazimir est le nouveau bourgmestre de Kadutu avec comme adjoint Bulikoliko René. Iyabagira Sumbu Socrate est nommé bourgmestre avec comme adjoint Muhoza Shiaka Jean-Marie. Dans ce même communiqué, on note la nomination du chef de la cité de Minova et son adjoint. Il s'agit respectivement de Baliha Mwabopolan et Sengimana Augustin.
Le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine a soutenu samedi 5 avril la proposition de nomination du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur dans les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette proposition a été formulée par le président angolais João Lourenço, actuel président en exercice de l'Union africaine, lors d'une réunion virtuelle. La candidature de Faure Gnassingbé, selon les communiqués officiels, a fait l'objet de consultations préalables avec les chefs de l'État togolais, qui s'est dit favorable sous réserve de l'approbation formelle de l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Les bureaux ont approuvé cette proposition. La validation officielle interviendra via la procédure dite de silence, comme le prévoient les règlements intérieurs de l'organisation. Le président Lourenço a rappelé la gravité de la situation humanitaire dans l'est de la RDC et l'impact régional du conflit. Il a salué les avancées récentes, notamment la convergence des processus de paix de Nairobi et Luanda, désormais confiés à des facilitateurs africains mandatés par la SADC et l'EAC. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mamadou Ali Youssouf, a salué l'engagement de João Lourenço et indiqué que la Commission assurera les suivis administratifs et techniques pour finaliser la nomination en lien avec la future feuille de route de la médiation. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une résolution durable du conflit en RDC, appelant toutes les parties à s'engager de manière constructive dans l'esprit des solidarités africaines. Et je l'annonce au sommaire de cette édition du journal, un drame d'une rare violence a frappé la nuit du 4 au 5 avril dernier les villages de Kabale, Katambi, groupement Rusayo, en territoire de Nyiragongo, ainsi que la ville de Goma au nord Kivu. Une famille entière d'au moins 9 personnes, parents, enfants et proches, a été exécutée par des assaillants armés, porteurs d'armes à feu selon des témoignages des habitants. Les bilans provisoires fait état d'au moins 10 morts, incluant un ancien candidat malheureux aux élections provinciales dans la circonscription de Nyiragongo. Les attaquants ont ciblé des habitants vers 20h, procédant à des exécutions sommaires. Des vidéos amateurs partagées sur les réseaux sociaux montrent des corps sans vie, dont certaines victimes surprises à leur table et d'autres retrouvées dans différentes pièces de maison. Les sources locales évoquent un chaos indescriptible avec des scènes de tristesse absolue selon un journaliste sur place. Dans un communiqué officiel, le point focal communication de l'AFC M23 Laurence Kanyuka attribue l'assassinat de ces 10 personnes d'une même famille aux ennemis de la paix au service du régime de Kinshasa, profitant des mesures de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la suppression des barrières sur les axes libérés. Alors que de son côté, le gouvernement de Kinshasa parle d'un acte orchestré par l'AFC M23, Laurence Kanyuka précise que cette criminalité est organisée par Kinshasa dans le but de ternir la réputation de l'AFC M23. L'AFC M23 dit réitérer son engagement à protéger et à défendre les populations civiles ainsi qu'à œuvrer pour la paix en RDC, conclut ce communiqué. Dans la même nuit, un jeune homme a été tué par balle dans les quartiers Katindo, ajoutant à la psychose qui règne dans la ville. Dans la ville de Goma, mais cette fois dans la nuit de samedi à dimanche, 2 personnes ont été tuées en l'espace d'1 heure. Il s'agit des 2 conducteurs des motos appelés communément motards, tués respectivement à l'Institut Ndosho et à l'endroit dit Oping dans les quartiers Ndosho, en commune de Karisimbi, explique des sources locales contactées par nos confrères de Le Volcan News. Et les Nganda et Bistro ne sont plus autorisés à ouvrir avant 16h, excepté le week-end. De même, toute personne retrouvée en état d'ivresse pendant la journée sera sanctionnée. Cette décision fait partie des mesures prises lors du conseil de sécurité tenu la semaine dernière dans la ville de Bukavu, en présence de plusieurs autorités locales à Alain Kabika.
Dans un entretien accordé à la presse locale, le gouverneur ad intérim de la province du Sud Kivu sous la FC-123 Dunia Bwenge Dux a indiqué que ces différentes mesures sont prises pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Il motive ces mesures par le fait que des bandits se servent des bistrots comme lieu de refuge pendant la journée avant de sortir dans la soirée pour troubler la quiétude des citoyens. Dunia Bwenge Dux.
Et ne voulons pas voir quelqu'un s'enivrer avant 16h. Donc, que la population sache bien que les services de sécurité circulent, mais aussi les agents de l'ordre sont éparpillés ici et là pour faire le suivi de cela. On vous attrape la journée ivre, sache bien que vous devez être sanctionné. Donc, ne voulons pas voir un débit de boisson ouvrir ses portes avant 16h. On peut être un peu modéré pendant le week-end.
Il précise également que cette décision a pour but d'inciter la population à s'est consacré au travail au lieu de passer leur journée à s'enivrer. Toujours sur les plans sécuritaires, les gouverneurs ad intérim rappellent que les civils ne sont pas autorisés à fréquenter les camps militaires. Tout civil appréhendé dans ces lieux fera l'objet de sanctions sévères, a-t-il expliqué.
Vous voyez qu'au niveau de la ville ici, même de la province, la sécurité n'est pas encore totale. Et donc, nous demandons à la population d'éviter de fréquenter les camps militaires. Parce que les camps militaires sont faits pour les militaires et pas pour les civils. Donc, si on attrape quelqu'un, on pourra les sanctionner sévèrement. J'en profite aussi pour dire à la population de rester toujours vigilante. Parce que la sécurité jusque-là n'est pas encore établie totalement. Dans la ville, il y a encore des postes de résistance ici et là, compte tenu de la prolifération des armes distribuées auprès des populations civiles. Et donc, chacun doit être vigilant quant à ça.
Enfin, les gouverneurs ad intérim, accompagnés du vice-gouverneur en charge des questions politiques administratives, a lancé un appel à la population des zones contrôlées par l'AFC 123 à participer aux initiatives visant à restaurer la sécurité, notamment en dénonçant tout mouvement suspect dans l'entité.
Et le Conseil urbain de la jeunesse plaide pour la mise en place d'un système carcéral encadré pour protéger les innocents et réduire les cas de justice populaire dans la ville de Bukavu. Dans une lettre ouverte adressée aux autorités provinciales et aux confessions religieuses, le Conseil urbain de la jeunesse constate une montée en puissance de la criminalité dans la ville de Bukavu suite à l'absence d'un système carcéral organisé, expédié Kialo.
Cette structure rapporte dans sa lettre que des personnes sont molestées, brûlées vives ou exécutées sans aucune forme de procès. Dans de nombreux cas, ajoute le Conseil urbain de la jeunesse, il n'existe aucune preuve formelle de la culpabilité des victimes et souvent certaines sont coupables des délits mineurs dont la punition imposée dépasse en loin la gravité de l'acte réproché. Pour le Conseil urbain de la jeunesse de Bukavu, l'impact de la justice populaire est désastreux sur les plus jeunes en particulier. Les enfants témoins de ces actes d'une violence inhumaine grandissent avec une perception déformée de la justice et de la valeur de la vie humaine, fait observer le Conseil urbain de la jeunesse dans cette correspondance. Pour rétablir les tissus sociaux dégradés par cette situation, cette structure invite l'AFCM23 à rétablir le système carcéral qui implique la réhabilitation de la prison centrale de Bukavu. Junior Kamwele, président du Conseil urbain de la jeunesse, en parle.
Il s'agit d'un plaidoyer visant à demander aux autorités du mouvement AFCM23 de créer un système carcéral dans la ville de Bukavu, parce que nous avons vu, lors de la prise de la ville de Bukavu par les 10 mouvements AFCM23, les criminels ou les bandits qui étaient logés dans la prison centrale de Bukavu se sont évadés, ce qui a occasionné par la suite une explosion de la criminalité dans la ville de Bukavu. Cela étant, la population livrée à elle-même est contrainte de se livrer justice, et nous observons par-ci par-là des cas de justice populaire. Les gens qui sont attrapés, victimes ou pas victimes, sont molestés, tabassés, brûlés vives. Alors nous pensons que créer un système carcéral permettrait à ce qu'il y ait réduction de ces cas de justice populaire, qu'il y ait réduction de l'arbitraire, et ainsi nous allons protéger non seulement les habitants qui sont de plus en plus exposés à des scènes de violence, mais également les plus jeunes, les enfants, à qui en tout cas nous devons cela.
Enfin, cette structure sollicite l'appui des confessions religieuses et des acteurs communautaires pour assurer un soutien humanitaire et spirituel aux détenus.
Et dans ce même paquet, plusieurs enfants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école dans les groupements d'Irambikatan en territoire des Kabaré, suite à la situation sécuritaire toujours non rassurante dans plusieurs villages de cette partie du Sud Kivu. Des informations recoupées par Radio Maïndélé et confirmées par des leaders de la place indiquent que plusieurs parents continuent à garder leurs enfants à la maison par crainte des probables représailles et ou attaques de leurs villages respectifs. Alain Kabika.
Ne sachant comment s'occuper en cette période, plusieurs de ces enfants en âge de scolarisation se sont dirigés dans les carrés miniers situés dans les villages Lomera, groupement de Louhi, en territoire des Kabari. Ici, ces enfants sont soumis à de lourds travaux, notamment les transports des sacs remplis de sable, dilués d'extraction vers le lac Kivu, pour les lavages, dans l'espoir d'y extraire de l'or ou ses dérivés. D'autres par contre sont exploités de diverses manières, notamment dans les restaurants et maisons de vente des boissons, alors que d'autres exercent des activités de commerce ambulant autour de ces carrés miniers. Par ailleurs, des enseignants de cette partie du territoire des Kabaré payés via les banques ne parviennent pas à percevoir leur salaire. À ce jour, indique-t-il, nombreux d'entre eux sont surendettés et ne parviennent pas à répondre à leurs besoins et ceux de leur famille. L'absence des frais de fonctionnement provoque un dysfonctionnement dans plusieurs écoles, autant publiques que privées, qui ne parviennent même plus à acheter les matériels nécessaires, comme ne fût-ce que le CRI. Suite à cette situation, des enseignants, des responsables d'école, les élèves et des acteurs sociaux dans les milieux préconisent la recherche d'une solution urgente au conflit sécuritaire signalé dans l'est de la RDC afin de permettre un retour à la normale des activités dans la province du Sud Kivu.
Et pendant ce temps, un enfant témoin ou acteur des événements traumatiques tels que la justice populaire peut développer à la longue des troubles de comportement avec des risques d'affecter négativement sa santé mentale. C'est ce qu'a révélé le psychologue Idriss Baninde dans un entretien avec Radio Maïndélé au Mapendolinda.
Idriss Baninde précise que les événements traumatiques auxquels assistent les enfants ne restent pas sans effet sur leur psychologie. Il renseigne que dans un long ou bref délai, ces enfants peuvent développer des comportements qui traduisent les traumatismes, l'ancienneté et deviennent violents dans la communauté. Ces psychologues précisent que ces enfants sont susceptibles de développer des troubles de sommeil, des problèmes qui les empêchent de se concentrer à l'école et d'autres encore deviennent distraits. À la longue, ces derniers se réfugient dans la drogue ou l'alcoolisme pour essayer de compenser la douleur qu'ils ressentent. Idriss Baninde explique.
Vous allez vous rendre compte qu'un enfant qui faisait de bonnes notes à l'école, un enfant qui était bien assidu au cours, qui était discipliné, l'enfant ne va plus être concentré au cours. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a vécu cet événement, il vient au cours, mais en réalité, l'enfant n'est pas au cours mentalement et psychologiquement. C'est cela un des signes révélateurs à court terme sur la santé mentale des enfants, mais aussi à long terme. Alors, un enfant qui a été exposé à ce genre de scènes violentes et qui n'a pas été accompagné ou qui n'a pas eu un cadre familial qui est propice, lui permettant d'être résilient, ce sont les enfants qui sont violents vers l'adolescence ou en âge adulte. Ce sont les enfants qui sont trop agressifs. C'est un enfant que vous pouvez vous rendre compte qu'après, il commence à se droguer, il commence à être un grand consommateur de l'alcool. Pourquoi? C'est une manière subliminale d'exprimer, n'est-ce pas, ses ressentis émotionnels qui sont négatifs et de vouloir compenser ses ressentis avec la drogue, avec de l'alcool.
Pour aider ces enfants, les psychologues Baninde appellent les personnes qui vivent sous le même toit que ces enfants à les approcher régulièrement, au besoin les amener auprès des psychologues pour les séances de détraumatisation.
La communauté doit être vigilante et très observatrice. Surtout, je vais insister ici sur les cadres familiales où les enfants peuvent en tout cas être très attentionnés et les garder à tout moment que l'enfant commence à afficher ou à avoir un changement de comportement, tout comme tous les cas que j'ai énumérés. La place de l'enfant, c'est à la maison et à l'école. Quand l'enfant n'est pas à l'école, il doit être à la maison et les parents doivent veiller plus à ça. Que les scènes, s'ils se reproduisaient encore, que ces scènes se reproduisent en l'issue des enfants et que les parents prennent des dispositions pour prendre soin des enfants, les contrôler. Normalement, l'intervention des enseignants qui suivent de près les enfants aussi est nécessaire pour alerter le parent au cas où l'enfant commençait à manifester un changement de comportement.
Il demande aux membres de la communauté de ne pas impliquer les enfants à des événements comme des cas de justice populaire ou de fortes violences, car le contraire, c'est les exposer à un futur sombre où ils seront violents et alcooliques. Il va plus loin et demande aux parents d'éviter des débats autour des cas de justice populaire ou autres actes de violence en présence des enfants, enfants, car, augmente-t-il, cela affecte leur état psychique d'une manière ou d'une autre.
Merci Mapendolinda et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéléo à Bukavu et dans les territoires. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent. L'élection présidentielle, les scrutins directs et des députés nationaux et provinciaux sont prévus au mois de décembre 2028. Les conseillers communaux, conseillers des secteurs et conseillers des chefferies, quant à eux, seront élus en juillet 2029, également au scrutin direct. La Commission électorale nationale indépendante sénile dévoile dans sa feuille de route des procès électoraux 2025-2029, publiée en début de week-end dernier. Expédé Kialo.
Celle-ci comprend les grandes lignes des activités à mener pour la tenue des prochaines élections à différents niveaux. Quant aux élections indirectes, cette feuille de route fixe celle des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs au mois de juin 2029, celle des conseillers urbains, bourgoumestres et bourgoumestres adjoints, chefs des secteurs et chefs des secteurs adjoints au mois d'octobre 2029, et enfin celle des maires et maires adjoints au mois de décembre 2029. Selon le président de la CENI, Denis Kadima, cette feuille de route est publiée conformément à la mission constitutionnelle de la centrale électorale d'assurer la régularité des processus électoraux. Pour Oswald Rubacha, expert en matière électorale, cette feuille de route sonne comme un rappel aux politiques que bientôt la course électorale sera lancée. C'est aussi un message signifiant que le mandat du président de la République et des députés provinciaux et nationaux expire en 2028. Oswald Rubacha.
Kadima, jusqu'à présent, sur le plan de l'égalité, il a un droit de faire ce qu'il a fait. Il a l'obligation, effectivement, de préparer les élections prochaines. La mandature actuelle a déjà 2 ans, presque d'ici là 2 ans, et doit clôturer en 2028. Donc, Kadima, aujourd'hui, a l'obligation de préparer les processus électoraux 2028. Et c'est très important, dans le contexte actuel, de mobiliser déjà la population à se préparer aux échéances prochaines. Il serait aberrant que l'équipe de Kadima c'est là, en train de tourner les pouces, ne fait rien. Mais aujourd'hui, au moins, nous savons que les élus actuels, la présence de la République, aux députés nationaux, sénateurs et les autres en province et locaux, ils doivent se préparer déjà, que leur mandat court jusqu'en 2028. Donc, cette feuille de route vient de nous rappeler tout ce que le président Félix n'a pris un autre mandat et que son mandat court jusqu'en 2028.
Il précise que cette feuille de route servira de repère à l'élaboration du calendrier électoral dans les jours à venir.
Et avant de clôturer complètement cette édition du journal, environ 10 hippopotames ont été abattus dans la plaine de la Rosisie depuis le début du mois de mars 2025. Ces mammifères aquatiques partagés entre la République démocratique du Congo et les Burundi et vivant notamment dans les lacs Tanganyika et la rivière Rosisie sont aujourd'hui la cible d'un abattage sans précédent au Omer Mudekereza.
Cette précision est de Josué Aruna, président de la société civile environnementale, dans une interview accordée à Radio Maïndéléo. Celui-ci dénonce cette pratique qu'elle qualifie de crime contre la biodiversité. Aruna appelle les communautés locales à prendre conscience de la valeur écologique et économique des hippopotames, qui sont des espèces rares qui constituent une richesse pour les pays. Notre source invite les autorités congolaises à mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour arrêter ces phénomènes. Josué Aruna souligne également que les actes de braconnage constituent une violation grave des droits environnementaux, allant jusqu'à évoquer la notion d'écocide, en référence au statut de Rome qui tend à intégrer ces crimes dans le cadre du droit international. Il condamne fermement les braconnages des espèces sauvages protégées et lance un appel à la concertation nationale pour préserver la biodiversité, notamment les espèces rares et vulnérables telles que les hippopotames de la Rosisie. Le président de la société civile environnementale, Josué Aruna, en parle.
Nous sommes tellement préoccupés par la situation qui prévaut actuellement avec le braconnage sans précédent aux espèces sauvages, notamment des espèces totalement protégées par la loi congolaise et les conventions internationales. À ce jour, on a compté entre mois de mars et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, nous sommes à presque 10 espèces qui ont été abattues, notamment les hippopotames. Ce sont les mêmes espèces qui appartiennent à la réserve de la Rusizi au Burundi. Ce sont les mêmes espèces qui appartiennent du côté de la RDC et nous avons tout un intérêt de protéger ces espèces emblématique que Dieu nous a béni.
Pour rappel, la semaine dernière, 4 hippopotames ont été abattus par des hommes armés à Luvungi, dans la plaine de la Rusizi. Cet acte a constitué des inquiétudes au sein de la population et des défenseurs de l'environnement.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Mindeléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Après les drames qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les villages de Kabale et Katambi en territoire de Nyiragongo au nord Kivu, l'AFC M23 dans un communiqué officiel attribue cet acte d'assassinat aux ennemis de la paix qui profitent des mesures de la libre circulation et la suppression des barrières dans les zones libérées. Interdiction formelle, Onganda et Bistro de fonctionner avant 16h, excepté le week-end, pour lutter contre l'insécurité dans la ville de Bukavu, selon une décision prise à l'issue du Conseil de sécurité et communiquée à la presse samedi par le gouverneur intérimaire. En plus de toute personne retrouvée en état d'ivresse pendant la journée sera sanctionnée. La mise en onde était celle d'Anissé à Konkwa à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Mindeléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomindeléo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.